moi, c'est dans cet entre-deux, c'est-à-dire autant essayer d'évoquer des faits, des aspects de ma vie qui sont susceptibles de ne pas désintéresser tout le monde, parce qu'on quand même on se ressemble sur certains points. Donc, à la fois des aspects de ma vie et des œuvres qui m'ont particulièrement ému. Et essayer de justement tisser ce lien, de le retisser, de le questionner et d'interroger pour savoir pourquoi ces œuvres sont si importantes. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est peut-être l'essentiel de livres que j'ai écrit jusqu'à présent. Maintenant, le roman, ça a été une porte que j'ai essayé d'ouvrir au début timidement, avec, on en parlera j'imagine, puisqu'il est là. C'est-à-dire un personnage dans un livre où il ne se passe quasiment rien, si ce n'est dans sa tête. Donc c'est vraiment la forme minimale du roman pour aller vers des choses un peu plus foisonnantes.
Et pourtant, il s'en passe des choses. On va y venir très vite. Je voulais juste compléter le portrait avec quelques éléments de votre biographie. Donc vous avez été libraire quelques années. Vous avez écrit de la poésie, ça je ne l'avais pas dit. Vous êtes orienté, enfin vous étiez bon à l'école, je crois, et vous êtes orienté vers la neurophysiologie. Sans pour autant passer le doctorat. Vous avez écrit des chansons et vous êtes chroniqueur littéraire pour Le Monde.
J'ai fait un petit temps. Effectivement, c'était une expérience assez enrichissante, mais ça n'a pas duré très longtemps.
D'accord. Vous êtes passé par là quand même. Ouais. On peut écouter, si vous faites une recherche sur Google, à partir du site de France Culture, il y a des reportages que vous avez fait, des sortes de reportages.
Documentaire fiction,
voilà. Dont un dont je ménagerai un petit peu de temps pour en parler à la fin, sur Stieg Dagerman. C'est de très jolis moments, c'est du voyage et du voyage intérieur et du déplacement géographique aussi. Et c'est très, très agréable à écouter, très sensible. On en parlera parce qu'apparemment, ça devrait déboucher sur une édition, sur une publication bientôt. Vous voyagez beaucoup, je le pense. On en reparlera là. Tout de suite, vous voyagez beaucoup, et là aussi on va essayer de ménager un petit peu de temps à la fin pour parler de votre dernier voyage. Vous revenez d'Ouzbékistan, c'est pas un voyage commun.
Oh, ça va le devenir.
Inévitablement, quoi qu'il y a peut-être des tensions politiques qui font que ça va devenir plus compliqué aussi. Là aussi, on y reviendra pour le détailler parce que c'est quelque chose à quoi vous tenez, je pense. C'est l'activité d'atelier d'écriture. Voilà, c'est quelque chose que vous pratiquez toujours.
Le
plus souvent possible, oui. Et on va voir dans quelle mesure ça apporte aussi, ça influence peut-être pas, mais en tout cas, comment ça nourrit aussi le travail d'écriture de l'écrivain. Moi, je trouve que, enfin, voilà, vos textes sont. Chez les écrivains, on peut déterminer assez vite ce qui les caractérise. Et au-delà du style, hein, je veux dire, quel univers ils remuent, quelle est leur attitude par rapport à l'écriture et par rapport à la littérature. Et les mots qui me venaient en vous lisant, à part « oh la vache, comment il fait ?», c'était la finesse, la subtilité. Il y a une pertinence, une finesse, une subtilité constante. J'ai essayé de repérer des coins en me disant bah ça faudrait et du coup pratiquement c'est corné toutes les deux pages à peu près. Il y a un film comme ça avec Alexandre Jardin qui surligne des passages d'un bouquin qu'il aime bien, et en fait toutes les pages sont entièrement jaunes, ce qui trouve tout remarquable. Et là c'était pas loin. Les voyages, il est aussi beaucoup question du rapport entre les hommes et les femmes. C'est essentiel, bien sûr, c'est essentiel. Et j'avais cru remarquer que, notamment dans les fictions, quand il était question de rapport des hommes aux femmes, c'était toujours traité du point de vue masculin. Et puis vous êtes venu avec ça, et je me suis dit, bon, bah, Parce que là, c'est une femme qui parle à la première personne. Oui. Et je voulais vous demander justement si, si c'était quelque chose que vous interdisiez, mais la preuve, non, quoi. À quel moment on choisit de faire parler de parler pour une femme à la première personne?
Alors, ça, c'est une histoire très particulière. On prend un peu de temps pour en parler. Je faisais beaucoup d'ateliers d'écriture pour une scène nationale à Belfort, donc, dans le territoire de Belfort, un théâtre qui s'appelle Le Granit. Et des gens sont venus voir le directeur du Granit pour lui dire, voilà, nous sommes une association qui s'appelle le Mouvement du Nid, peut-être certains d'entre vous connaissent, association qui vient un peu en aide aux prostituées. Et c'était l'anniversaire de l'association. Et ils ont demandé au théâtre, est-ce que on pourrait faire quelque chose, quoi. Est-ce que vous pourriez vous associer à nous pour faire quelque chose autour d'abord de la question de la prostitution et de l'anniversaire de notre association. Alors ils ont discuté, puis ils ont dit, bon, ils m'avaient là sous la main, et ils trouvaient ça très bien. Le projet initial, c'était que je rencontrais les gens de l'association, les bénévoles de l'association Le Mouvement du Nid, je recueillais leurs témoignages, je transmettais ça à une metteur en scène associée au théâtre, qui elle-même transmettait ça à sa comédienne, et ça donnait une lecture pour la journée contre les violences faites aux femmes. Moi, j'étais très content. La prostitution, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'étais prêt à m'investir sur ce thème. Et j'ai discuté avec ces gens pendant plusieurs jours, qui sont des gens très bien, mais j'ai senti qu'on était un peu à côté du sujet. C'est-à-dire qu'à la fois, parler de la prostitution, qui est un sujet important et grave, autant faire parler les prostituées plutôt que les gens d'une association. Et en plus, ces gens-là, je ne veux pas en dire du mal, mais ils n'avaient pas vraiment un discours très très articulé là-dessus. C'était simplement une sorte d'attention à l'autre qui était, bon, en gros, ces pauvres femmes, qu'est-ce que vous faites? Ben, on leur amène des poissons chauds de la nuit, on les accueille. Si elles veulent venir le jour, notre lieu est toujours ouvert. Enfin, il n'y en avait jamais aucune qui venait. Et je me suis dit, c'est pas possible. Parce que je vais passer justement par la fiction. Je vais créer un personnage qui est une prostituée et qui va parler à la première personne. Donc, je serai femme, je dirai un jeu qui est femme et qui est prostituée, ce que je ne suis ni un ni l'autre. Et en plus, et là ça va rejoindre le voyage, je me suis très vite rendu compte que c'était une forme d'esclavage, une cruauté au-delà de ce que j'imaginais. Qu'il était bien entendu que mon texte devait dénoncer cette chose-là, même s'il paraît qu'il y a 1 ou 2% peut-être des prostituées qui choisissent d'être prostituées. Je veux bien, enfin, moi ce qui m'intéressait, c'était les 98 os qui étaient soumis à des mafias. Et en discutant avec quelqu'un d'Amnesty International, il m'avait dit, les mafias les plus violentes en ce moment, c'est les mafias albanaises. Donc j'ai dit, bah, quitte à dénoncer ma prostituée, la prostituée, elle sera albanaise. Il se trouve que j'avais été aussi quelques jours à Tirana, j'avais des images de Tirana dans la tête des années 90, et voilà, ça a commencé comme ça, mais ça a été un recours en quelque sorte, quand j'ai senti que c'était mal parti ce projet, et c'était d'abord une commande. Donc voilà, je suis arrivé à exprimer un jeu qui était féminin, suite à cette évolution et cette demande initiale que je ne savais pas bien combler, de la manière dont on m'avait proposé la compagnie.
Il aurait été difficile de toute façon de l'envisager par le côté masculin. Enfin, ça aurait...
Ouais, c'est vrai que la prostitution masculine existe, par exemple. Oui, bien sûr. Mais j'ai voulu faire parler ce qui était la majorité.
Pardon. Là aussi, les 98%, enfin, la grande majorité, c'est une prostitution publique.
Alors, peut-être qu'on en parlait un petit peu moins aussi, les questions de genre, hein, même si c'est... Je crois qu'aujourd'hui, j'aurais eu cette alternative plus présente à l'esprit. Là, ce n'était pas le cas. Mais alors, du coup, pour en revenir à la question du roman, c'est vrai qu'il y avait un autre challenge qui était comment parle une prostituée albanaise qui apprend le français sur le trottoir. Est-ce que il me fallait créer une langue. Et je réponds à plein de questions parce que on en revient à l'influence des ateliers d'écriture. Je me suis dit, il faut qu'elle ait une appréhension du français qui soit en décalage, mais il n'est pas question de mimer un accent albanais ou les fautes de syntaxe que font habituellement les étrangers. Donc, j'y pensais, je ne sais pas, c'est venu à ce moment-là. Je faisais un atelier d'écriture dans un hôpital psychiatrique et un patient à qui je demandais d'écrire sur les choses qu'il aimait, je lui avais dit « Quelle est ta couleur préférée ?» Et ce patient a écrit « Ma couleur préférée, c'est le ciel, surtout quand il est bleu. » Et je me suis engouffré là-dedans. Je me suis dit « En fait, elle parlera comme ça à ma prochaine. » Parce que les étrangers, je ne sais pas si vous en côtoyez, mais des fois, et nous-mêmes, quand on parle une langue étrangère, on fait de la poésie par accident. Et comme cet univers serait forcément noir, parce que je ne voulais pas tricher avec la réalité de ce monde et de cet univers et de cette existence, je me suis dit, ce qui va sauver mon texte, c'est qu'elle fera de la poésie par accident, à la manière de ma couleur préférée, c'est le ciel, surtout quand il est bleu.
Voilà. D'accord, très bien. Donc justement, avant de vous recevoir, je me suis demandé par quel angle on allait aborder votre travail. Et puis je me suis dit que le plus simple, en fait, ça allait être d'aborder les livres dans l'ordre où je les ai découverts. Quoi. Voilà. Donc moi, je vous ai découvert avec ce livre-là, Le mal que l'on se fait. Il y en a ici. Alors, Le mal que l'on se fait. L'histoire, c'est celle d'un homme, un ancien militaire, qu'on découvre dans une ville d'Amérique du Sud. J'ai pensé à l'Argentine. À cause du tango.
Non, parce que c'est vrai que le nom n'est jamais cité, c'est pour ça.
Et,
non, c'est Montevideo. C'est,
D'accord, Montevideo.
En Uruguay.
Ok. J'ai une question aussi à ce sujet-là. Une ville d'Amérique du Sud où on le voit dans une sorte d'errance et d'attente et de langueur en quelque sorte. Il va rencontrer des gens, faire un peu de muscu et s'initier au tango. Il va y rester 3 mois. C'est la première ville de sa fable, dites-vous. Et puis, il se rend ensuite dans une ville musulmane. Alors celle-ci, je pense que là, ça va. C'est plus transparent, c'est Istanbul. Où il va aussi séjourner 3 mois. Se rapprocher, là aussi il y a une espèce de, il y a une déambulation méditative, quand vous dites qu'il ne se passe rien quand même, enfin, il rencontre des gens, puis il y a la façon de scruter la ville autour de lui, d'apprendre la ville, et de, non pas de s'y intégrer, mais de prendre sa couleur en quelque sorte. Et il va se rapprocher de la religion musulmane. Non pas qu'il soit dans une crise spirituelle, mais on saura pourquoi dans la troisième partie. Pourquoi est-ce que il est allé faire du tango à Montevideo et pourquoi il est allé comme assistant au rituel et faisant un rituel lui-même dans une mosquée, la grande mosquée, la mosquée bleue d'Istanbul. Pourquoi il se rapproche de la religion musulmane? Qu'est-ce qu'il vient saisir? Qu'est-ce qu'il vient essayer de comprendre là? Et il y a une raison pour les deux voyages, pour les deux séjours et pour ces deux formes d'approche rituelle. Et on l'apprend dans la troisième partie. On ne dira pas. Quoi? Non, on ne dira pas. Si vous voulez le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comment est-ce que... D'abord, ces villes, vous les connaissez?
Oui.
Vous y êtes allé?
Oui,
d'accord. Cet homme qui déambule dans la ville, c'est un peu vous? Enfin,
non, justement,
peut-être pas.
Non, justement pas. C'était une tentative aussi, parce que ça questionne cette écriture qui est la mienne, mais qui tourne autour, comme je l'ai dit tout à l'heure, du jeu, et de mon rapport au monde et mon rapport aux œuvres. Et à un moment donné, on se dit comment on en sort un peu, parce qu'on peut aussi créer des personnages qui nous ressemblent un peu moins. Et je suis vraiment parti de cette idée. Alors je ne savais pas ce qu'il allait faire dans ces livres, mais je crois que le point de départ du livre, c'est d'imaginer quelqu'un qui n'est pas du tout moi, dans des villes que j'ai aimées. Alors il ne va pas faire ce que je fais moi dans ces villes, c'est-à-dire qu'il ne visite pas. il va pas dans les musées, par exemple. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la culture. Par contre, un de ses plaisirs, une de ses fiertés, c'est de construire une carte mentale de la ville, de déambuler pour connaître le nom des Russes. Et moi, je me perds dans ces villes. Enfin, je suis vraiment parti d'un portrait en négatif, en quelque sorte. Et ça, c'est le point de départ. Alors, évoquer des villes que j'aimais, mais en créant un personnage qui ne me ressemblait pas, et travailler sur une forme extrêmement épurée de roman. Là, je prendrais... Alors, je crois que je pourrais citer un livre qui m'avait marqué, enfin, pas quand j'ai écrit ça, parce que je l'avais lu bien avant, mais qui m'est revenu en mémoire à l'occasion de ce projet. Peut-être certains l'ont lu, parce qu'il a eu quand même un certain succès. C'est le livre qui s'appelle Soi, d'Alessandro Barrico. Soi, c'est un roman de 80 pages, on va dire, avec des chapitres qui font souvent une demi-page. Et il y a dans Soi quelque chose que j'ai reproduit là, très volontiers, je revendique cette forme de plagiat. C'est dans l'histoire de Soi, c'est libératoire. Hein. Donc on est dans une, je ne sais plus quel siècle, je crois que c'est le 18e, puisque le Japon est un pays assez fermé. Ça se passe dans le sud-ouest de la France, les gens font un élevage de vers à soie. Il y a une maladie qui extermine tous les vers à soie du bassin méditerranéen, plus de vers à soie, une seule possibilité de trouver, c'est le Japon. Le Japon, en tout cas. Et le personnage fait 3 voyages au Japon, et si vous avez la curiosité d'aller voir ce roman, depuis à peu près la région de Cahors, ou je ne sais où, jusqu'à une montagne japonaise, l'auteur décrit ce voyage en une demi-page, mais en citant tous les lieux où il passe. Alors il part à cheval, il arrive à, je ne sais pas, par exemple à Lyon, il marche jusqu'à Strasbourg, il prend une charrette jusqu'à... Enfin bref, voilà, c'est très très épuré comme ça. Et chaque fois qu'il part au Japon, il part 3 fois dans le livre, la page est exactement identique. C'est-à-dire que l'auteur reproduit le même voyage 3 fois. On n'est pas loin du conte, on est dans une épure, ce que j'appelle la prose poétique des fois, et j'avais vraiment envie de travailler sur cette forme là donc c'est les villes que j'aimais, cette forme là et un personnage. Après, ce qui lui arrive, c'est venu pendant l'écriture. Je ne suis pas quelqu'un qui sait où il va quand il commence à écrire. J'ai un ami comme ça, peut-être j'en reparlerai à ce propos, qui s'appelle Jean-Marie Blas de Robles, qui fait des livres énormes, luxuriants. Vous allez chez Jean-Marie Blas de Robles, il y a un étendoir comme ça, il y a chapitre 2, chapitre 3, il a tout prévu. Il passe un an ou deux à tout prévoir, et puis après...
Oui, c'est un peu à la façon dont Hitchcock, enfin il y a d'autres auteurs comme ça aussi qui préparent tout. Ça peut avoir un côté un peu sclérosant pour plusieurs. Il a un rapport à la certitude et à l'incertitude, ce personnage. Qui est illustré par un morceau de documentaire animalier où en fait j'arrive pas à déterminer s'il est incertain ou il est certain, votre personnage. L'incertitude, ça ressemble quand même à... il regarde, il y a une scène de documentaire animalier, il y a la masse des manchots qui se dirigent vers la mer, tout à fait logiquement, et il y a un manchot tout seul tourne le dos aux autres et qui une impulsion, une orientation défectueuse marche vers le milieu de la banquise et donc va inévitablement mourir. On dirait que lui il est dans la certitude, ce manchot seul, et là, il est dans la certitude. Et votre personnage il se situe comment par rapport à ce manchot? Il se reconnaît comme frère de ce manchot avec sa certitude?
En tout cas, il est ému. Souvent, quand on est en partie, quand on se reconnaît en partie, consciemment ou inconsciemment, dans l'autre, on est ému par cet autre.
Le côté désespéré.
Ouais, en même temps, il veut rompre avec des certitudes passées quand même. Donc, c'est compliqué les histoires de certitude, d'incertitude, parce que quand on veut rompre avec les certitudes passées, alors est-ce qu'on devient certain ou est-ce que c'est une nouvelle certitude?
Oui, on gagne d'autres certitudes.
D'ailleurs, je devrais vous répondre que je ne sais pas.
Voilà. Je ne suis pas sûr.
Je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quelqu'un qui veut changer quelque chose d'essentiel à sa vie, même s'il sait que c'est trop tard, mais c'est important qu'il change. Et quand je disais que c'est un roman dans lequel il ne se passe rien, alors c'est une façon aussi de me caricaturer des fois, de dire des choses comme ça, mais c'est pour dire qu'il a une chose à accomplir dans chaque ville, et que c'est difficile pour lui de faire ce... Il a un pas à faire, et il met 3 mois à le faire. Donc ces 3 mois, c'est 3 mois de préparation pour un pas. Donc d'une certaine façon, on peut dire que pendant 3 mois, il ne se passe pas grand-chose. Ça se passe, c'est la maturation de ce pas. Mais lui, il entreprend très peu de choses.
Oui, on sent bien ça. C'est un homme qui est, d'une certaine manière, quand il aborde ces villes, il est déjà mort d'une certaine manière, mort en lui, mort intérieurement. Et ces deux séjours sont une manière de rejoindre la vie.
Oui. Certainement.
C'était pas un projet bien clair en lui, mais d'une certaine manière, ça va vers l'apaisement en tout cas.
C'est ça, c'est une recherche d'apaisement qui est perdue d'avance parce qu'il ne pourra pas inverser le cours des choses, mais c'est important, c'est ce qu'il lui reste à faire d'essentiel dans sa vie. Il considère justement, je pense, une personne qui se considère comme déjà morte est extrêmement humble dans ses dessins et ses projections et il veut quand même accomplir quelque chose.
Je peux vous demander de lire un passage?
Bien sûr. Même des lunettes.
Voilà. Alors, soit vous choisissez, soit.
Non, c'est
de toute façon, t'es bon. Par là, par exemple.
Alors, oui, il y a un autre aspect du livre, c'est que. Qui a pu un peu désarçonner, c'est que. Dans la première ville, donc la première partie, c'est à la troisième personne du singulier, c'est-à-dire il.
Ouais. Après, on passe au tutoiement, au tu.
Voilà. Et après, il y a un peu de jeu. Et pour moi, c'était important cette idée de se réapproprier la personne. Au début, il est étranger à lui-même. Ensuite, certaines personnes se tutoient. Hein. Je ne sais pas si vous le faites. Quand ils se parlent, ils se tutoient intérieurement.
Il commence comme ça, où tu vas comme ça avec ton
voilà, etc. Avion. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et ensuite, il y a un peu de jeu. Donc là, on est dans le tutoiement, puisqu'on est à Istanbul. Passe plusieurs semaines relevant d'une spiritualité que tu n'invoques jamais. La ville est plurielle, mouvante jusqu'en dans le moindre de ses pores. C'est bientôt la fin de ton deuxième mois de présence ici, et tes pas ne te guident toujours pas où tu t'es promis d'aller. Tu sais qu'il ne s'agit pas de te rendre dans une mosquée comme le font les touristes, mais de t'y fondre, d'y subir comme un effacement de ta conscience, de t'y évanouir avec ton passé, avec la benne des inepties qui habitaient ta langue. Tu paniques, comptes à nouveau les jours écoulés dans cette ville et éprouves, pour te dégager de ton impasse, le besoin d'un nouveau silence. Non plus ce silence routinier qui s'arrête au bord des conversations étrangères, non plus également celui que l'on crée autour de soi comme une forteresse pour ses réflexions intimes, mais ce silence que fabriquent les livres. Tu n'as presque jamais rien lu, mais un ouvrage acheté un jour dans une maison de la presse t'a propulsé dans les nuages d'un grand exil. Alors, un matin de juillet, tu pénètres dans la librairie française de la ville et y acquiers un livre d'occasion. Celui-ci parle d'un homme qui fait le tour du monde à la recherche d'un trésor qui est en réalité enfoui dans son jardin. Tu n'as jamais entendu parler ni du livre, ni de son auteur. Mais les mots sont malins. Ils se saisissent de toi comme ils se sont saisis de ceux qui t'ont précédé. Les mots décrivent des vies plus pauvres et plus creuses que celles que nous vivons, mais ce sont les mots. Et la fable te charme. Tu n'entends plus ni les dés, ni les pions du backgammon qui s'entrechoquent autour de toi. Tu bois un café froid, dans un canapé vert d'un café de Chungutsuk. Quand tu refermes ton livre, tu as le sentiment de t'ennuyer. Voilà, c'est vrai qu'il va découvrir, enfin il va acheter un livre dans cet océan de temps vacant devant lui. Il va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc quelqu'un qui n'est pas dans la culture, qui va acheter un livre au hasard, parce que bon, forcément il n'a aucun a priori, il ne connaît aucun auteur, et quelque chose va prendre, quand même. Quelque chose va prendre qui va l'accompagner, comme ça arrive parfois.
On va passer au suivant. Alors là, alors celui-là, bien, quand j'ai eu connaissance de, non pas de sa publication, mais du moment où vous étiez bien avancé dans l'écriture, je pense, ou alors vous l'aviez bouclé à ce moment-là par un mail, où vous parliez de ce roman comme le gros, l'impossible, sans éditeur, sans perspective, ce qui rappelle que souvent les écrivains écrivent des livres sans savoir s'ils seront publiés et peuvent travailler longtemps dessus, et dire gracieusement ou presque. Et vous l'appeliez ce livre, le livre qui donne envie de ne plus écrire de livres. Bon, ça va mieux.
Il n'a pas bien marché, quoi.
Il n'a pas bien marché. Comment dire, oui, j'allais dire, c'est évident qu'un livre comme ça est tellement un ovni. Mais je ne veux pas vous en décourager, au contraire, parce que, voilà, moi, je l'ai lu 4 fois, là, pour notre rencontre. Donc 2 fois, de façon un peu rapprochée, là, et récente, et je suis loin d'en avoir épuisé tous les aspects. Votre très cher ami Éric Pessan dit que ce n'est pas vraiment possible ou souhaitable de résumer ce livre. C'est justement parce que les bons romans ne peuvent pas simplement se réduire à l'histoire qu'ils racontent. Alors, le résumé, effectivement, peut-être pas, mais on va quand même essayer d'initier le mouvement et de vous dire un peu de quoi il s'agit. On a un personnage, Julien, je crois qu'il a 44 ans, et qui, au sortir d'une séance de ciné-club, où il a vu tout un cycle Romère, comprend que ce qui était encore en lui un vague projet d'écriture de roman vient de se matérialiser, vient de se concrétiser. Ça y est, il a compris ce que serait son roman, de quoi il serait question. Il en a même trouvé le titre, un titre étrange. Et on est ensuite, on attaque le roman en question. Et ce sera donc le roman de son frère, Hector, un frère avec lequel il a quelques comptes à régler. Enfin, voilà. C'est intéressant parce que la fraternité est peu traitée dans la littérature, il me semble. Ça sera un roman qui s'intitulera Die Klöße. Je ne sais pas si je le prononce correctement.
Je ne suis pas non plus germanique.
Il y a Autrema, je crois que ça se prononce E. Klöße. Die Klöße. On peut expliquer pourquoi ou pas tout de suite. Il sera question de mathématiques, il sera question de je regarde mes notes quand même, de cerf-volant, de générique d'Amicalement Vôtre. Vous vous rappelez du générique d'Amicalement Vôtre, Danny White et Brett Sinclair, et ce qu'on appelle la technique du split screen, où on a en parallèle les deux, et donc on a là une tentative, enfin, pas une tentative d'ailleurs, pour une première dans la littérature qui est plusieurs pages de split screen. Donc voilà, restitution littéraire du procédé du split screen. Il sera question de Kakouré, il sera question de Sarkozy, il sera question de tragédie historique, il sera question de l'histoire familiale et de ce que de ce qu'il faut peut-être résoudre. Il sera bien sûr question d'hommes et de femmes, beaucoup de femmes. Voilà. Et donc tout ça nous entraîne dans un roman effectivement très 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 original, très très singulier, si tant est que très singulier veut dire quelque chose, un roman singulier. Voilà, vraiment il n'existe pas d'autres romans de cette forme là, enfin, et en plus très abouti, c'est-à-dire que toutes les intentions sont menées à terme. Il y a même à la fin une sorte de scène enfin, délirante, ça m'a fait penser à Umberto Eco.
T'es pas obligé de lire.
Bah, trop.
Parce que, en fait, je crois que là, c'est annexe.
Enfin, c'est.
On peut s'arrêter avant.
Ouais, ce serait tellement dommage. Voilà, donc, Comment est né ce projet là? C'est des questions bateaux, mais on est bien. On va juste dire Diclos. Diclos, qu'est-ce que c'est que ce titre? À quoi ça correspond?
Je vais raconter l'anecdote. Je suis chez des amis à Paris. La femme du couple qui me reçoit est une germaniste prof d'allemand qui a beaucoup été en RDA à l'époque de la RDA. Et elle me dit, ce soir, j'ai des amis est-allemands, enfin, de l'Allemagne de l'Est, mais qui n'est plus l'Allemagne de l'Est, c'était il y a quelques années, qui sont là, et c'est eux qui font la cuisine. Et elle me dit, prépare un plat typiquement de la région de Thuringe. Très bien. Et le plat, c'était de la purée de pommes de terre. Enfin, il y avait... Je n'arrive même plus à me rappeler. C'est une pomme de terre reconstituée à partir de purée de pommes de terre. Alors, on a envie de sourire parce qu'ils avaient passé l'après-midi dans la cuisine, mais. Et je goûte et j'ai l'impression que cette pomme de terre reconstituée est meilleure que la pomme de terre qui n'est initiale. C'est-à-dire qu'en faisant d'une pomme de terre une purée, puis après de la modelant à nouveau en pomme de terre, cette pomme de terre devient meilleure que l'original. Et là, je commence à me dire, mais c'est une métaphore magnifique de la littérature. C'est-à-dire, la littérature, vous prenez les éléments de la vie, comme ça, vous en faites de la purée, en quelque sorte, et puis ça a plus de goût. Hein. Donc, on se fait suivre.
Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a même deux... C'est de la pomme de terre multipliée par la pomme de terre, parce qu'on ajoute de la pomme de terre crue à de la pomme de terre.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu plus complexe.
Parce que je voulais vous en faire ce soir, j'ai renoncé, mais j'ai regardé quand même les recettes. C'est pas très dur à faire. Mais ça prend un peu de temps quand même. Oui, après il y a des variantes. Mais vous prenez des pommes de terre que vous faites cuire dans l'eau, vous les écrasez assez grossièrement, hein, pas une purée trop mixée. Il faut vraiment juste les écraser. Vous râpez des pommes de terre à part, et ces pommes de terre râpées, vous les amalgamez avec un peu de fécule de pommes de terre aux pommes de terre écrasées, et vous faites cuire ça dans l'eau comme des quenelles. D'accord ? Et ça accompagne des viandes, voilà. Et paraît-il, c'est délicieux.
C'est délicieux, mais alors, du coup, je trouvais ça magnifique, quoi, cette idée que. Vous savez, il y a une phrase qui m'amuse beaucoup de Robert Filliou qui est l'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et là, il y avait ça, c'est-à-dire que la pomme de terre reconstituée, pour moi, c'était l'œuvre créatrice qui rendait la pomme de terre plus goûteuse que la pomme de terre.
La pomme de terre.
Et donc voilà, bon, ça c'est un point de départ par mon
titre,
qui était, mais mon personnage, à un moment donné, il se dit, mais je vais parler de la vie de mon frère, je vais parler de ma vie, donc c'est les deux pommes de terre, du coup vous avez bien fait de préciser qu'il y avait deux pommes de terre, et on va les mélanger, ça va faire quelque chose de plus intéressant que la vie de mon frère et de moi, parce que ça sera un livre. Et on sera dans la littérature, voilà.
Voilà. Et donc le frère s'appelle Hector, et donc il est traité par Julien à la première personne. Donc on est lancé dans ce roman à la première personne. Parfois c'est très troublant parce que Hector parle de son frère. Il y a une petite gymnastique intellectuelle à faire pour se rappeler que c'est le frère, enfin que c'est Julien qui a écrit son frère parlant de lui. Enfin, voilà. En faisant cet exercice autour de son frère, alors qu'il a quand même son frère l'agace profondément, dans le roman qu'il écrit, la façon dont il présente son personnage, Hector est plus charmant. Et c'est vrai qu'il fait lire son manuscrit à une amie qui lui dit « Mais il est charmant ton frère, il est... » Alors que pour lui, il n'avait pas... Il y a un hiatus entre la façon dont il le voyait et la façon dont il l'a traduit en personnage de roman. Il en fait un personnage plus intéressant qu'il n'espérait le faire, quoi.
Ben, c'est-à-dire que Hector est un don juan qui collectionne les conquêtes. Julien est quelqu'un qui a une vie sexuelle réduite à néant. Et quand il dénonce ce donjuanisme, pour lui, c'est une manière de stigmatiser ce comportement complètement dissolu de son frère. Et quand il fait lire ça à cette femme, finalement, c'est
plutôt intéressant.
Alors du coup, il va le pousser dans le ridicule, enfin, il va amener son frère dans le roman, dans des postures qui deviennent burlesques, mais il devient absolument ridicule. Et j'espère qu'il y a un moment où c'est tout. Si c'est le roman du roman, si c'est l'histoire réelle ou si c'est l'histoire écrite par Julien que l'on est en train de lire.
Julien qui reprend la main à un moment en établissant un procédé de jeu pour son frère, de jeu prime pour lui, ce qui devient compliqué effectivement, et il abandonne.
Ça devient compliqué. Alors, comment est né ce livre? C'est une petite anecdote au début. Je suis très reconnaissant à cette personne, même si elle a peut-être pas fait avec une bonne intention. Il se trouve que le mal que l'on se fait, dont on a parlé juste avant, pour ce livre, j'ai eu un prix. Ça s'appelle le prix Marcel Aimé, qui est donné dans ma région, en Franche-Comté, à peu près à tout le monde. Hein, pas très dur de l'avoir, il suffit d'être patient. Comme ils le donnent qu'à des auteurs de la région, forcément, à un moment, ils ont épuisé le stock. Et lorsque je reçois le prix, le président du jury fait évidemment l'éloge du livre, comme il se doit quand on remet un prix. Ensuite, il y a un petit apéritif avec l'auteur et les membres du jury. Et quand cet homme s'en va, il me dit « Bon, bravo pour votre prix, mais quand c'est que vous écrivez un vrai roman ?» Alors là, ça m'a un peu piqué, je me suis dit, le salaud. Alors je voyais ce qu'il voulait dire en même temps, c'est pour ça aussi que je me caricaturais, je pense toujours à lui, je crois. Au début, quand je disais Le mal que l'on se fait, c'est un roman minimal, au sens où il n'y a qu'un personnage, considéré qu'il y a un peu d'action, etc. Donc je vais faire le contraire, je vais faire un livre où il y aura, c'est ça qu'il voulait, d'abord un gros livre de 500 pages, c'était dans mon cahier des charges, je vais faire très long, très gros, avec plein de personnages, avec une histoire dans l'histoire, et puis... Il y avait quelque chose d'autre qui... Ça, c'est dans mon catéchisme personnel. C'est vrai que quand je définissais un peu mon travail, ce qui m'arrivait quelquefois, je disais souvent, au fond, tous mes livres, ils explorent une couleur, une seule couleur, qui est le gris-bleu. On est toujours dans une mélancolie douce, en fait. C'est pas un désespoir. Vous savez, c'est la mélancolie qu'on aime, c'est celle des chansons tristes qu'on repasse sur notre... phonogramme, parce que finalement cette tristesse, on aime se sentir délicieusement triste, comme disait Seishu Nagul. Donc j'avais l'impression que j'avais toujours écrit des livres gris-bleu, s'il fallait une analogie avec les couleurs. Et je me suis dit, je vais faire un livre qui sera rose, vert, jaune, rouge, il y aura toutes les couleurs. Ça sera un livre politique, ce sera un livre humoristique, ce sera un livre avec des dialogues, parce que je n'avais jamais écrit de dialogue avant celui-ci, ça sera un livre érotique. Et ça sera surtout un livre que je mettrai 5 ans à écrire, au moins. Et ça, c'était vraiment intéressant. C'est au lieu de se donner une histoire, comme mon ami Jean-Marie Blas-Dombleu, je disais tout à l'heure, qui a tous ses chapitres, je me donnais un temps. Ça veut dire quoi? J'étais assez curieux de savoir ce que pouvait donner un livre que l'on considère fini. Si on se mettait à le travailler 2 ou 3 années de plus, on finit Le mal que l'on se fait, ça tient, il y a une histoire, il y a un début, il y a une fin, au lieu de donner à un éditeur, je m'impose de réfléchir encore pendant 2 ans à ce livre pour le prolonger. C'est ce que j'ai fait avec ça. L'histoire, au début, je crois me souvenir, enfin ça j'en suis sûr, je ne me souviens pas de grand-chose, mais
oui, j'écris... Vous parlez de textes qui sont finis depuis longtemps.
Ah oui.
On est déjà dans d'autres
livres.
Oui,
mais c'est terrible. Mais même les prénoms, j'avoue que j'ai révisé hier soir, les prénoms des personnages, tout ça. Oui. Et au début, il y a l'histoire, la grosse première partie, c'est-à-dire Julien écrit sur Hector, mais il dit « je ». Donc on ne sait pas que c'est un autre. Ça pourrait être Julien qui écrit sa vie. J'ai écrit ça, et je sentais que ça pouvait faire un livre. Enfin, il m'en restait à trouver quand même pas mal de choses pour le rendre intéressant, mais il y avait quelque chose qui tenait, ça faisait un petit roman. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, justement, ok, ça, ce que tu viens d'écrire, ce n'est que la première partie. C'est un impératif. D'abord, c'est un livre dans le livre. Donc, on va écrire quelque chose en amont pour introduire le personnage de Julien, pour faire en sorte qu'on comprenne que le jeu... de cette partie, c'est pas lui, mais c'est Hector. Il y aura forcément une suite, parce que ça appelle une suite quand même. S'il y a 2 personnages, il faut bien les positionner l'un par rapport à l'autre. Et petit à petit, ça s'est construit comme ça. Donc c'était vraiment presque un challenge.
Un défi, oui, c'est ça, je pense à un exercice de
ouais.
Style en quelque sorte.
J'étais curieux de savoir qu'est-ce que ça donnerait si je me donnais autant de temps pour écrire un livre qu'est-ce que ça donnerait si j'osais toutes les couleurs, quitte à ce qu'il y ait des dissonances, ce que parfois on soit un peu perdu. Et voilà, donc j'ai mis beaucoup de choses dans ce livre, et c'est vrai que j'ai eu. Enfin là, des fragments me reviennent. Il y a eu un travail d'amalgame qui est très complexe parce que j'avais envie qu'il y ait tellement de choses. On a parlé des kakourés, là, notamment les kakourés, c'est quelque chose qui m'avait ému dans l'écriture, dans les livres précédents. Les kakourés sont les chrétiens japonais, les premiers chrétiens japonais. Bon, je ne vais pas parler des kakourés, mais je voulais qu'il y ait des kakourés là-dedans. Ensuite, il y a un des ancêtres de Julien Lepeur, l'inventeur des boules à neige. J'étais fasciné par l'homme qui avait créé les boules à neige, comme ça. Enfin, je ne sais pas qui c'est exactement, on dit que c'est un Autrichien qui a créé ça pour sa belle, mais on n'est pas sûr.
On veut bien le croire, voilà. Avec le cortège de mélancolie qu'il y a.
Exactement,
dans les boules à neige. Là,
voilà, on est dans la mélancolie douce, avec parfois la musique aussi. Je voulais qu'il y ait tout ça, je voulais qu'il y ait alors cette fin aussi avec c'est un tribunal œcuménique en fait, oui, où toutes les religions sont représentées et vont juger un de mes personnages, enfin, voilà. Ça aussi j'avais envie de m'amuser avec ça, mais façon Rabbi Jacob.
Oui, c'est très drôle, c'est vraiment très drôle. Il est question aussi de quand même ça, il y a des. On pourrait croire que c'est une sorte de, je sais pas, de manège drôlatique, mais pas que. Il y a des moments où, assez graves quand même.
Bien sûr.
Et des énigmes aussi familiales, grande énigme familiale qui vient donner de la gravité à tout ça et qui intervient d'ailleurs, qui est su, qui est révélé par des moyens très. Enfin, c'est assez. C'est pas une révélation qui surgit comme ça, c'est un cheminement, c'est parce qu'un autre personnage qui connaît une langue vient, etc., peut comprendre ce que la maman des deux frères là est en train de dire, etc., alors qu'elle a perdu le langage, elle a des ABC successifs et elle regagne des voyelles, enfin des lettres qu'elle a perdues, des sons qu'elle a perdus pour parler une langue que personne connaît autour d'elle. En fait, c'est du polonais.
Personne ne savait qu'elle parlait polonais.
Donc pourquoi elle parle polonais, d'où ça vient et qu'est-ce qu'elle dit surtout. Et un personnage complètement extérieur vient.
Un personnage déclassé, qui est un migrant, qu'une personne considère, mais qui chez lui est docteur.
Enfin, oui, voilà, c'est une.
Il part des diplômes, il dirait, mais tout le monde le regarde comme le mendiant de la boulangerie. Ah, ouais.
Et lui, il parle cette langue déjà pour moi. Imparfaitement, comme le français, il parle très bien français. Oui, un roman impressionnant. Vous voulez en lire un extrait? Bon, là aussi, c'est
tout de suite.
Je ne sais pas, j'avais noté ça, mais c'est Julien qui parle, là. Et là, j'ai pas mis de repère pour arrêter. Ah si, peut-être ici. C'est peut-être long, mais vous déciderez. Donc, c'est Chronique des années d'amour et d'imposture. L'éditeur, d'ailleurs, comment est-ce qu'il a reçu ce texte?
Alors, ça aussi, c'était un. Bon, pour tout vous dire, mais je vous apprendrai rien. Éditer un livre comme ça n'est pas simple, donc j'avais subi pas mal de refus. Plus que des refus, d'ailleurs, des non-réponses. Et je l'ai donné à un éditeur avec qui j'avais un peu travaillé, qui s'appelle Mediapop, mais pensant que c'était un peu gros pour lui, parce que c'est quand même pas tout cher de faire ça, et puis une fois, voilà. Et c'était très, très. Bouleversé parce que alors il n'a pas lu tout de suite je pense, mais le 31 décembre, enfin donc le 1er janvier à 2h du matin, je reçois un SMS en me disant j'ai commencé ton livre à 8h, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai passé le réveillon à le lire et
merci.
Donc là c'était et évidemment là je me suis dit je lui serai à jamais reconnaissant et c'est vraiment quelqu'un qui m'accompagne et que j'aime beaucoup. Je suis resté 3 jours cloîtré, en tête à tête avec un lecteur de papier, mes sentiments et ma folie. Je suis demeuré 72 heures presque sans manger, sans dormir, concentré sur les péripéties de mon personnage, et j'ai à présent le sentiment d'en avoir terminé avec un lecteur, je ne sais pas précisément lequel. je vais mieux et moins bien. Comment font les gens pour associer une phrase univoque à chacun de leurs états? Cela reste un mystère. Je crois plus au contraire, les antonymes ne se rejettent pas, ils donnent une complétude au nuage qui veille sur moi. Dehors, la météo était exactement celle de la page 223 du docteur Jivago. Le tonnerre roula comme si l'on eût tracé un sillon à travers tout le ciel et ce fut le silence. J'en profitais pour courir jusqu'à l'arrêt du tram et ainsi rejoindre le théâtre, lesté de cette douce épaisseur de conviction et de travail. Je suis arrivé en retard pour la projection du film. Il s'agissait des choses de la vie de Claude Sauté, mais ce n'était pas grave. Dans mon fauteuil, j'ai mis une bonne demi-heure à quitter le plateau du Golan, où j'avais fini par abandonner le Hector de mon roman, puis c'est devenu bien. Mélancolique, mais bien, comme souvent. J'ai vérifié encore cette fois que le noir d'une salle était ce dont j'avais le plus besoin. Nous n'étions pas plus de 9. J'ai distingué la silhouette de Solène Braillard qui s'était assise au premier rang, comme elle en a l'habitude, à la fin de son petit discours de présentation. La lumière est revenue tenser nos silences et nos émotions, mais le générique des choses de la vie n'efface pas la mort de Pierre qui me bouleverse toujours autant. Je découvre le visage des rares spectateurs qui m'ont accompagné pendant 2 heures dans la voiture de Michel Piccoli. Toujours un peu les mêmes. Je reste dans mon fauteuil, le regard entre 2 rives, comme souvent. Celle de la fiction à laquelle je viens d'assister et celle de ma vie. Le film de ce soir n'était qu'un alibi pour sortir de chez moi et pour quitter mon manuscrit. Je connais par cœur ce cinéma-là, les années 70, les hommes qui ne boivent jamais d'eau, qui regardent le large ou l'étendue de la ville comme s'il s'agissait de rêves de jeunesse revenus les narguer. Ils fument cigarette sur cigarette et leur fumée serpente autour de mots d'amour compliqués. Le temps qui passe n'est pas complice, mais l'amitié dilue les goulets d'amertume. Dans les films de Claude Sauté, ceux qui ne sont plus amants continuent à se regarder à peu près avec les mêmes yeux. Le dosage des sentiments qui les lient est à peine modifié. Peut-être est-ce une donnée de la relation amoureuse que je n'ai pas comprise, moi qui croyais que l'on s'aimait ou que l'on ne s'aimait plus. Peut-être ai-je tenté de transcrire et de juger ce que je ne connaissais pas. Je pense à Pierre et à sa relation dans le film avec Hélène et Catherine. À Anna et au regard d'Hector sur elle. Mon frère, depuis plusieurs semaines, me harcèle au téléphone. Il est vrai que mon attitude est incompréhensible. Après l'avoir sollicité pour recueillir le plus d'informations sur sa vie, j'ai brutalement coupé les ponts. Heureusement, je crois être crédible dans le rôle de l'écrivain en rade dans son roman. Et puis, l'épisode de notre mère a ouvert une nouvelle brèche qui a nécessité une enquête. C'est drôle comme ma génération doit simplement remonter à la précédente pour trouver un drame. Ainsi donc, l'exil en France de ma famille s'était fait dans l'odeur de charogne et de haine, dans la brutalité et l'horreur qui n'épargnent les émigrants que de quelques centimètres. Ma mère, toute petite fille, a porté 2 culpabilités, celle intime de la liste égarée et celle partagée d'être rescapée. Pas étonnant qu'elle se soit évanouie dans la maroquinerie où travaillait mon père. L'évanouissement est une très belle chose. D'abord, il entr'ouvre la porte de l'au-delà et nous permet de constater qu'elle donne bien sur le néant. Ensuite, il confesse cette faiblesse magnifique. J'essaie de lutter, mais je n'y parviens pas. La réalité est trop difficile pour moi, je disparais. L'ardoise n'est absolument pas magique. Le message douloureux, comme toujours, déserte la surface comme un poisson qui plonge à l'endroit du profond, des plissures et du sombre. Ma mère s'est relevée de sa syncope et a croisé le regard d'un homme. L'amour nous ment terriblement. Elle a fait des enfants. La maternité nous ment terriblement. Elle possédait son crabe à l'intérieur, mais la vie donne le change. Nous nous reflétons dans les yeux des autres, et ainsi nous commençons à apparaître sur la scène commune. Leur regard découpe nos silhouettes, il nous donne un habit, une présence, une durée. Et cette attention finit parfois par nous confier une existence de substance. Ils parlent de nous, nous avons des attributs, la peur du noir ou de dire certaines choses. Nous rêvons d'araignées et la neige ou le vent du soir nous file le cafard. Nous n'aimons pas recevoir de cadeaux, nous ratons des rendez-vous, nous ne sommes pas à l'aise pour conduire sur l'autoroute, nous ne digérons pas le café après 15 heures, mais nous n'oublions pas les anniversaires, nous repassons les chemises à merveille, nous avons la main verte, nous avons mal au dos, mais aucun problème pour nous endormir. Nous trouvons Alain Delon beau, mais pas Johnny Hallyday, on ne sait pas dire pourquoi. Nous voudrions aller en Corée du Sud, on ne sait pas non plus pourquoi, mais les États-Unis ne nous attirent pas. On on aime bien Pompidou, mais pas Chavandelmas, c'est physique. Et voilà que l'on existe. Voilà que notre vie s'interprète avec ses tessons de verre à vif et son sable de bon sens. Nous nous faisons du souci pour les enfants, les parents, et c'est normal. Nous sommes soulagés d'être à la retraite, contents que la France ait gagné, que la guerre n'ait pas lieu, que le beau temps soit revenu. Et le tableau pour lequel nous posons est achevé. La vie est là, qui coule depuis l'estrade où nous jouons notre petit rôle en amateur. On en oublie l'essentiel, le ghetto de Tchernowitz, la liste perdue d'une famille juive, sans doute gazée, le périple de l'exil, le racisme de l'autre côté. La vie souffre de son parallèle avec la terre et son opacité. On ne pense pas à ce qui croit dessous. Tu es là ?
Voilà. Voilà, et oui, 5 ans pour l'écrire, la moindre phrase est de cette qualité-là. Donc, voilà, c'est un livre que, oui, je...
Par pitié,
voilà, non mais ça vous fera du pire, hein, je vous assure. C'est vraiment tellement génial.
C'est bien l'éditeur, j'ai perdu beaucoup d'argent.
Oui, il faut le... Oui, non, mais c'est, je crois que c'est pas surprenant. Il a été chroniqué quand même.
Si, il y a eu un
Télérama.
Article dans Télérama.
Oui, je sens, ouais. Je l'ai pas lu parce que j'ai pas, je suis pas abonné.
C'est bien parti. Il y a eu un article dans Télérama, puis plus rien.
C'est son livre vraiment, ouais, c'est un livre vraiment à part et c'est lui-ci, je pense vraiment.
Oui.
Après, bon, quand il y a ce côté agrégation de personnages, de thèmes, etc. rappelle un peu le procédé de la rhapsodie, et c'est un terme qui est revendiqué pour cet ouvrage là ce sont des bateaux que l'on regarde partir. Au passage, vous aurez remarqué la beauté de chacun des titres des livres de Christophe. Rhapsodie, qui est aussi un terme que revendique un auteur qu'on a reçu ici, il s'appelle Christian de Goutte, et qui pour certains de ses recueils de poésie parle de rhapsodie, parce que le principe de la rhapsodie, c'est on accole des participations diverses, voilà, chacun, c'est pas une auberge espagnole, mais il y a un peu cette idée de provenance variée. Et ce sont des bateaux que l'on regarde partir, est d'abord un recueil de témoignages de voyageurs particuliers qui sont les migrants. Leur source est plurielle. Il y a eu un peu à Rouen, peut-être.
Ça a commencé à Rouen.
Ça a commencé à Rouen.
Alors, il y a un témoignage. C'est vraiment lié aux ateliers d'écriture. Ça, alors, c'est le seul livre qui, je disais tout à l'heure, pour une phrase qui m'a lancé dans la dernière fois où j'ai eu un corps. Mais là, le cœur du livre est constitué de phrases que m'ont donné des gens que j'ai rencontrés dans des ateliers d'écriture. Et l'idée, c'était, c'est vraiment si difficile à expliquer, mais je ne voulais pas faire un travail de journaliste, bien sûr. Je ne voulais pas intervenir sur ce qui m'était dit, autrement que, à nouveau, en travaillant sur la rhapsodie, sur l'amalgame. C'est-à-dire que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont nés ailleurs. Alors, quand je dis migrants, c'est à peine réducteur, parce qu'il y a aussi des gens... Par exemple, des pieds noirs. Il y a 2 pieds noirs dans l'histoire. Mmh. Ils sont nés ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Alors, j'ai rencontré comme ça, en tête à tête, 40 ou 50 personnes. Et j'ai sélectionné des phrases qu'ils m'ont dites et je les ai mélangées. Comme si je voulais restituer une chorale. Comme la foule. La foule s'exprime. La foule des migrants, la foule des gens qui viennent d'ailleurs s'exprime. Et de temps en temps, enfin, et en permanence, il y a une voix qui se dégage des autres, et c'est comme ça qu'on lit cet ensemble. Alors, je ne voulais pas non plus que ce ne soit que ça. Donc, j'ai habillé ce cœur, sur tous les sens du terme, le cœur du livre et ce cœur choral, un peu d'une réflexion sur le voyage, qui emprunte un peu à la fiction, un peu à mes lectures, un peu à l'Iliade d'Homère, qui est surtout une idée forte que j'avais en tête, qui est comment se fait-il que le mot voyage, pour une partie de l'humanité, soit associé à du plaisir, à du rêve même, pour beaucoup, et pour une autre partie, à du danger de mort, de
la contrainte,
de la peur, etc. C'est c'était juste le mot voyage. Si vous discutez, si un occidental comme nous ici dit le mot voyage avec en face de lui quelqu'un qui vient d'un pays considéré comme des pays du tiers monde, ou en tout cas des pays pauvres, ben, c'est sûr que la résonance du mot ne sera pas la même. On ne peut pas voir la même chose. On n'entend pas, on n'a pas les mêmes couleurs, on n'a pas les mêmes sons, on n'a pas les mêmes odeurs associées à ce mot. Donc voilà, c'était un travail. Et c'est vrai que c'était... Les ateliers d'écriture ont tellement été importants dans ma vie que... Enfin, c'est depuis 2006 que je fais ça. Qu'il y avait un moment où je me suis dit, mais ces gens, tous ces gens formidables que je rencontre, qui ont des vies hautement plus remarquables que la mienne, avec parfois des mérites incroyables, qui ont fait des choses, qui ont laissé solliciter tellement plus de force que moi j'ai fait, je vais leur donner la place en fait. Je vais pas toucher leurs mots. Alors évidemment, certains s'exprimaient maladroitement, parfois, d'autres me le disaient en anglais, moi je ne suis pas non plus bilingue, tout n'était pas parfait, mais j'ai sélectionné, j'ai enlevé des choses, c'est sûr, mais ce que j'ai gardé, je l'ai gardé tel que c'était, je n'ai pas touché. Donc voilà, c'est, je crois que c'est trois chapitres du livre où, alors, j'ai un peu organisé tout ça. La première partie parle de, peut-être de l'enfance ou du départ, la deuxième du voyage, la troisième de l'arrivée dans le pays d'accueil, et les voix se répondent et on les retrouve. Alors au début on ne sait pas qui parle, hein, bien sûr, parce que c'est des jeux, puis je pense qu'on retrouve...
Oui, au moins on peut les retrouver et les reconnaître.
Voilà. Bon, par exemple, juste pour parler de Rouen, c'était la première, je m'en souviens très bien, c'était donc au CADA... J'ai rencontré un homme, alors ça donne aussi l'idée de la complexité de ses parcours aussi. Hein. C'est un Arménien d'origine qui naît en Azerbaïdjan, alors les Arméniens, pas besoin de rappeler, ils ne sont pas très aimés par les Azéris, les Azerbaïdjanais, enfin je ne sais pas comment dire, Azéris je crois, et puis au moment des pogroms qui se produisent lors de son enfance, la famille part en Russie, parce qu'ils parlent russe. Alors, ils ne vont pas en Arménie non plus, parce que les Arméniens, visiblement, n'aiment pas trop les Arméniens qui sont nés en Azerbaïdjan. Donc ça, c'est des histoires. Parce que ma première réaction, c'était ça. Quand on fuit un pays où on est devenu en danger, peut-être qu'on retourne dans un pays qui est plus de notre culture. Mais non, il se toujours dit qu'ils vivent en Russie pendant toutes les années d'enfance de mon interlocuteur. Le père travaille, mais il n'a jamais de papier. En Russie, on ne donne pas des papiers comme ça aux migrants. Et ils sont constamment racketés. Et ça se durcit. Ça se durcit. Mon interlocuteur entre dans l'âge adulte à un moment donné où il est question qu'il faut quitter la Russie. On vous met en prison et puis tu dois payer et c'est des sommes de plus en plus grosses qu'ils n'ont pas, etc. Et là, c'est formidable, mais comment la vie est compliquée pour certaines personnes. Quelqu'un lui dit, mais c'est très simple, tu parles russe, il y a un autre pays, ça se passe mieux, il y a du boulot, c'est l'Ukraine. Va en Ukraine, dans la partie russophone, et tu auras du travail. Lui, il était dans le bâtiment. Et donc, il part avec sa famille en Ukraine. Et là, c'est la guerre qui éclate, enfin la guerre civile à ce moment-là, c'est pas celle dont on parle aujourd'hui, mais l'amorce en tout cas, c'est-à-dire que la ville dans laquelle il est déchirée entre les russophones et les Ukrainiens qui refusent leur attachement, et c'est vraiment là. Sa famille est en danger, donc il faut à nouveau partir. Et là, il rencontre quelqu'un qui l'aide à partir, qui lui prête un peu d'argent, et on le met dans un autobus, un car, qui part en Europe de l'Ouest, et tout ce qu'on leur dit, c'est on vous dira quand il faudra descendre. C'est, ils ne choisissent pas. Après, quand on dit pourquoi les gens, qu'est-ce que vous faites chez nous, ben non, vous faites. Et il descend à Lyon. Il se retrouve à Lyon, et de Lyon, il arrivera à Rouen. Voilà. Donc ça, c'était mon premier témoignage, et c'est vrai que je me suis dit, c'est édifiant, quoi. C'est des trajectoires de vie qui sont incroyables.
Ils n'ont pas choisi la France.
Rien. Mais même pas la Russie, même pas l'Ukraine, parce qu'ils parlent un peu russe, alors on l'envoie en Ukraine, mais l'Ukraine, ça c'est un mauvais choix, quoi, un mauvais tirage, et les vies se construisent comme ça, d'une façon où ça pousse, c'est comme les petits arbres sous les grands arbres, il faut se tordre pour arriver à la lumière un petit peu. Et voilà, donc à partir de ce témoignage, qui était le premier, parce que j'ai passé quelques mois à Rouen, j'ai décidé de rencontrer d'autres gens, sans avoir encore une idée assez précise de ce que j'allais faire, et c'est devenu ce livre.
Ouais. Bien. Et après, donc, cette volonté d'augmenter, je ne sais pas si on peut parler d'augmenter, mais ce récit de témoignage, comme ça, cette rhapsodie, avec vos propres réflexions, vous avez estimé que ça ne se suffisait pas à soi-même, ou il fallait que vous apportiez votre propre voix?
Alors, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai un rapport un peu exigeant avec le projet de livre. Peut-être parce que j'ai quand même beaucoup lu. Alors la question c'est bon, est-ce que ma démarche a encore un sens, est-ce que c'est assez singulier pour exister? Bon, quand moi je m'intéresse aux migrants, beaucoup de gens s'intéressent aux migrants, beaucoup d'artistes font des choses, les danseurs font des spectacles avec des migrants, les comédiens font parler des migrants, la télévision a sûrement fait des choses sur les migrants. Je me dis bon, il faut quand même que je trouve une forme qui soit un peu singulière dans tout ça. Alors, il me semblait que le seul témoignage, même amalgamé, comme je l'ai fait, ça ne me satisfaisait pas encore. Il fallait que mon projet d'écriture soit un peu plus ample. Quoi.
Donc, à l'Iliade, d'ailleurs, les parties dont vous parliez, c'est chant 1, chant 2, chant 3, j'imagine que ce n'est pas un hasard. Il y a un psychologue des années 70. Je pense que son hypothèse est aujourd'hui...
Je ne sais pas. Le livre vient d'être publié
en français. C'est une très belle idée. On peut en parler un peu?
Oui, parce que là aussi j'ai révisé, parce que j'avais oublié, mais je peux en parler aujourd'hui. Alors déjà, il y a une idée qui n'appartient pas qu'à ce psychologue, qui est, une séparation. Dans l'histoire de l'humanité, il y a un grand axe là, qui court à un certain moment où émergent un certain nombre de grandes idées, de grands hommes. Alors c'est à la fois Confucius comme Homère, je ne sais plus d'ailleurs, mais enfin bon, il se passe quelque chose dans l'histoire de l'humanité, et c'est pour lui, peut-être c'est ce qu'il apporte au début de sa théorie, c'est l'émergence de la conscience de soi. Des gens commencent à considérer l'individu comme un être à part entière et non plus dans la communauté. Si vous lisez la Bible par exemple, on voit que l'Ancien Testament, en tout cas, là, on est dans le collectif, par rapport aux prophètes, bien sûr, mais à un moment donné, on s'intéresse à l'être. Dans les religions orientales, c'est un cheminement vers une spiritualité, une sagesse. Chez Homère, c'est Ulysse, quand même, qui est un être presque de Woody Allen, qui se pose des questions, qui veut rentrer à la maison, qui trompe sa femme,
et qu'elle est bien.
Voilà, donc, il y a cette période. Et sa théorie, qui peut paraître fumeuse, et d'ailleurs il y a quelqu'un qui a une phrase assez juste là-dessus, il dit ou c'est un génie, ou c'est n'importe quoi. Ça peut pas être entre les deux. Il dit que jusqu'à Homère, les gens n'avaient pas cette conscience de soi. Alors, je donne un exemple, c'est un peu difficile à comprendre, mais il dit, au fond, si vous conduisez un bateau, et que rien ne se passe, il n'y a pas de danger, vous êtes sur une mer d'huile, vous tenez le gouvernail, tout va bien, vous pensez à autre chose, vous oubliez le bateau. Et lui dit, il faut imaginer qu'à cette époque, les gens, quand tout allait bien, qui tenaient l'équivalent d'un gouvernail de bateau et qui se déplaçaient, il n'y avait pas d'autres pensées, parce qu'ils n'étaient pas dans la conscience d'eux-mêmes. Donc il y avait cette espèce de vide, en quelque sorte, c'est très difficile à imaginer. Mais où il veut en venir, c'est que si un danger se présente, la conduite ne va pas être dictée par cette conscience de soi qui dit je suis le seul maître à bord, qu'est-ce que je dois faire quand un danger se présente devant mon bateau. C'est la voix des dieux qui parle. Ils entendent les dieux. Les dieux disent ce qu'on doit faire. Alors, pourquoi ces gens-là étaient si sensibles, c'est là que ça devient fumeux ou génial. Pourquoi ces gens-là étaient si sensibles à la voix de Dieu? C'est parce que le cerveau le permettait. L'organisation du cerveau, alors ça faisait écho, évidemment, moi j'avais fait des études là-dessus, ça me parlait. En gros, on sait aujourd'hui, ça je crois que c'est pas remis en cause, que le langage est plutôt dans l'hémisphère gauche. Tout le langage est à peu près dans l'hémisphère droit, ne fait pas grand-chose pour le langage. les aires du langage, qu'on appelle les aires de Broca et de Wernicke, essentiellement, sont dans l'hémisphère gauche. Et la théorie de ce Julian James, ce psychologue, c'est que dans l'hémisphère droit, il existe des aires équivalentes, et que c'était dans ces aires-là qu'on entendait la voix de Dieu. C'est-à-dire que ces aires-là étaient aussi dédiées au langage, mais au langage divin. Et que si les gens, à l'époque, avant Homère et pendant Homère, entendaient les voix de Dieu, c'était avec leur hémisphère droit, et l'équivalent de Wernicke et de Broca, des airs de Wernicke et de Broca. Voilà, donc il y a toute une théorie, alors je l'exprime peut-être très mal là, mais ça, évidemment ça m'a fasciné qu'un scientifique comme ça commence à émettre des postulats et même une théorie sur comment faisait-on pour entendre la voix de Dieu et qui expliquerait effectivement beaucoup de choses quand on est athée en tout cas, on peut relire la Bible à la lumière de cette théorie et se dire bon ben voilà c'est comme ça que ça s'est passé. Mais donc j'ai voulu là aussi amalgamer cette histoire.
Oui, oui, cette ère de langage à disposition serait quand on ne reçoit plus la voix de Dieu, elle est disponible, c'est le cerveau disponible pour le langage publicitaire, ouais. En fait.
Ça c'est moi qui le dis.
Et je trouve ça assez malin. Autre livre qui là aussi agrège va chercher dans plusieurs endroits des éléments qui concourent à la même réflexion autour du silence, ça s'appelle Temps de silence tout simplement. Et c'est un très joli série, je ne sais pas si joli est un terme, autour de l'idée de silence, des idées de silence, peut-être pas des formes de silence, mais de la nature, des natures du silence, des différentes natures du silence. C'est illustré, pas illustré, mais en tout cas ponctué de dessins de Jean-Pierre Schneider. Je me disais qu'il n'était peut-être pas pour rien non plus dans la... Comment vous avez travaillé ensemble? Il a travaillé après, vous avez travaillé un peu...
Il a travaillé après.
Et il me semblait qu'il y avait presque un dialogue entre... Enfin, c'est pour dire que c'est très bien fait, en fait.
Mais tant mieux, parce que, justement, nous, on était frustrés de cette collaboration qui n'en a pas vraiment été une. Ah, et ouais. On travaille en ce moment à un livre ensemble.
D'accord. Oui, là, ça a été en deux phases et sans...
Oui, c'est ce que font parfois les éditeurs.
Oui, bien sûr, c'est comme ça.
Vous donnez un texte à un éditeur, puis il se charge de trouver...
Moi, je trouvais que ça dialoguait de façon vraiment très, très, très pertinente, très subtile. C'est un parcours dans le temps autour des notions de la notion du silence ou des notions de silence au pluriel, puisque c'est temps de silence au pluriel. On commence, si on veut, par le silence de la création avec Laetitia. C'est le silence en soi pendant qu'on crée. On est dans des notions extrêmement subtiles, hein, vous l'imaginez, et qui sont explorées là. Voilà, alors pas tant, j'ai cru, il m'a semblé saisir quelque part dans d'autres textes que vous pouviez écrire dans le bruit, ça vous arrive, dans un bar.
J'avais dans les bars,
ouais. Ouais.
Mais
vous faites quand même silence en vous.
C'est ça, mais c'est la notion de silence, le silence est bruyant parfois, c'est les gens quand vous êtes au sommet de la montagne, vous dites quel silence, il peut y avoir s'il y a un rapace qui pousse un cri, s'il y a le vent, le bruissement des feuilles, on appelle ça silence aussi. Donc c'est plutôt, là aussi j'ai eu du mal à définir ce que je voulais dire, mais c'est ces moments où les mots acceptent de se mettre en retrait, quoi, où la parole devient un peu inutile ou impuissante. C'est pour ça que j'ai essayé de répertorier les silences que nous traversons tous, que j'appelle des moments de silence. Alors, le silence de la création, c'est plus généralement, parce que je parle effectivement de la figure de deux peintres italiens, mais c'est le moment où on a la conscience de mettre nos pas dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Ça prend toutes les formes possibles, et ça peut être effectivement d'aller dans un lieu historique, on sait qu'il y a eu là des hommes et des femmes qui ont vécu et qui sont morts depuis des millénaires, mais ça peut être aussi le jour où on récupère un objet de son père ou de sa mère qui est décédé, on enfile le manteau de quelqu'un qui n'est plus. Enfin, ce moment-là où on a vraiment conscience qu'on vient après d'autres. Et, alors j'appelle aussi Ossio Tiziano parce que dans son trajectoire de peintre, Titien prend à un moment donné, vient après Giorgione, et un autre peintre qui était son aîné, enfin en tout cas qui est mort beaucoup plus jeune. Et je me dis que quand Tiziano peint un certain tableau, je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire de l'art, je ne peux pas beaucoup parler de la peinture de Tiziano, mais j'ai une certitude, pour en revenir, moi je peux affirmer quelque chose, quand Tiziano peint ce tableau, il ne peut que penser à Giorgione, parce que ce tableau l'est dit, et je suis sûr, quand il a peint, il a pensé à Giorgione, et s'il a pensé à Giorgione, c'était forcément dans le silence, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça que je suis allé chercher, le silence... quelque chose que j'évoque devant les classes, le collège et le lycée, quand deux personnes vont s'embrasser pour la première fois sur la bouche, en général c'est un moment de silence et les deux comprennent que ça va arriver. Enfin, c'est très maladroit, je crois, de dire attention, dans 10 secondes je vais t'embrasser. En général ça se fait dans un accord tacite et silencieux et tout le monde traverse ce silence là. Il y a un autre silence qui est le silence du renoncement.
Oui.
À travers Ettore Scola, le cinéaste italien, de son vivant, a dit un jour j'arrête le cinéma. C'était dans les années de Berlusconi, ça ne sert plus à rien de faire des films. Et j'ai pensé à nos renoncements, à nous tous, soit avec l'âge, soit avec la perte des rêves ou des espoirs, ou, le moment où on arrête, le moment où on cesse d'entreprendre quelque chose qui a été essentiel pour nous. Alors j'appelle ça un silence, mais vous voyez, c'est très personnel. C'est-à-dire, pourquoi un silence? Parce qu'il n'y a pas besoin de mots, quoi. Je veux dire, c'est, moi, à nouveau, dans un atelier d'écriture, je me rappelle d'un très beau texte d'une dame qui avait atteint un certain âge, et sur ce thème, elle avait fait un texte très beau sur le moment où elle avait décidé de donner sa voiture à son petit-fils, ou je ne sais plus, parce qu'elle avait compris que c'était trop dangereux de conduire, elle devenait dangereuse pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça fait partie de nos renoncements quotidiens. Alors, il y a à la fois les grands renoncements, Ettore Scola et le cinéma, et il y a aussi cette dame et sa voiture. C'est... Voilà.
Le silence des bourreaux aussi.
Le silence des photographies, oui. C'est... Le faux silence des photographies, j'ai réalisé très naïvement, en travaillant sur ce livre, que les photos nous illusionnaient sur le silence. On regarde une photo et on pense inévitablement, inconsciemment, ou alors peut-être vous y avez pensé, mais moi en tout cas, que tout faisait silence parce que la photo est silencieuse. Et je regardais des photos de massacres dans des camps, avant les...
Oui, les Einsatzgruppen.
Einsatzgruppen, effectivement, enfin, tous les massacres de juifs qui ont eu lieu avant la construction des camps, et notamment en Ukraine et en Russie, où on a des photos de gens qui ont construit eux-mêmes leur fosse commune, qui sont nus parce qu'on les a déshabillés et qui attendent qu'on leur tire une balle dans la nuque. Et je regardais ces photos et je me disais, mais en fait, les gens devaient hurler, pleurer, crier. Et la photo nous ment, parce que la photo nous fait croire que tout ça se passe en silence, comme s'il y avait une grandeur, une beauté presque à accepter la mort. Mais elle est inacceptable, cette mort-là. Donc ça ne pouvait pas se faire comme ça. Et puis, il y a une allusion là aussi, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est le tricote comme ça. Deux autres choses qui me sont personnelles. La première, c'est que j'entends de moins en moins bien d'une oreille. Donc je projette ma surdité à une échéance plus ou moins lointaine. Et donc, forcément, ça a un lien avec la question du silence. Donc j'évoque cette surdité et j'évoque le seul coup de foudre, vraiment coup de foudre que j'ai eu pour un morceau musical, qui est quelque chose qui m'a saisi à l'âge de 18 ans. Et j'emploie très volontiers, très fermement le mot de coup de foudre parce que j'ai été tout à fait saisi par une musique. Et j'évoque cette musique justement comme le contre-pied du silence, le contrepoids à tous ces silences. Et dans un questionnement par rapport à ma surdité aussi, est-ce que je pourrais l'écouter encore longtemps, cette musique, voilà.
qu'elle soit enregistrée, engrammée. Oui, et vous concluez presque avec le silence que je cherche après l'achèvement d'un livre. Il y a des listes de silence. Ah, je pense aussi au silence des témoins des crimes. Le silence sur moi un peu médusé. Enfin, celui justement où les mots ont plus de valeur. Voilà. Et donc vous avez, au milieu de ces réflexions, il y a des listes de silence. J'aime pas comme d'autres beaucoup le principe des listes. Ça a toujours une sorte d'effet poétique que j'aime beaucoup. Il y a une question de Buster Keaton, bien sûr. Des choses. Le tableau le plus célèbre du monde s'intitule Le Cri. Le cri le plus célèbre du monde est silencieux. Quand Léonard Vinci a pensé « Le soleil ne bouge pas », tout a dû faire silence dans l'atelier. La fin des couples qui ne se reprochent rien, qui finissent leur repas sans un mot, la fin du désir qui ne reproche rien. Le silence du témoin qui entend à jamais les cris des victimes résonner dans sa tête. Le silence de la dernière nuit de Chet Baker, des derniers mois de Baudelaire, des dernières années de Valérie Larbeau. Le silence des maisons qui achèvent de brûler, des tornades qui se sont éloignées, des soldats qui sont partis, le silence des noyés, des disparus, des jardins que l'on a cessé de tondre. Ça, c'est chez moi, ça. Le silence de celui qui comprend les animaux, qui a un rapport animal avec l'animal, dirait Deleuze. Le silence sur le visage de celui qui ne connaît pas la poésie et qui découvre avec stupeur des mots précis pour nommer sa souffrance nue. Le silence des ânes que l'on a peint en zèbre dans le zoo de Gaza. Ça, il faudra peut-être expliquer un peu l'anecdote. Ça, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler aussi. Le silence du premier homme qui renonce à la lecture à haute voix pour faire résonner les phrases du codex dans sa tête. Et c'est complété par, au IVe siècle de notre ère, le silence de l'homme qui surprend pour la première fois un lecteur silencieux et qui décidera de décrire son émerveillement et sa surprise devant cette pratique inédite. Il écrira aussi « Aime et fais ce que tu veux ». J'aime aussi, ça aussi, le silence de Georges Pompidou qui ne gracie pas Claude Buffet et Roger Bontemps en pensant à sa propre mort promise par la maladie. C'est Marguerite Yourcenar qui donne parmi les 33 noms de Dieu le silence qui se fait entre deux amis. J'ai trouvé ça très très beau. Le silence d'un père surendetté qui ne dort pas après que l'insomnie lui a suggéré de tuer toute sa famille puis de se suicider. Et donc, le silence que je cherche avec l'achèvement d'un livre, que nous cherchons après avoir bâti, érigé, libéré de nous-mêmes des choses qui ne sont pas silencieuses. Ce silence d'après, découpé dans la fatigue des muscles ou de l'esprit et qui semble n'exister que pour certains. Le silence dans lequel on est paradoxalement repu de ce que l'on a extrait de soi. Tant de silence. Et c'est pas un livre difficile, c'est un livre d'accès assez simple et toujours touchant et émouvant. Le passage sur le corps, etc., j'aurais dû le garder pour enchaîner avec celui-ci. Vous vouliez dire encore quelque chose à ce sujet-là? J'ai pas pensé de le redire, mais bien sûr, si vous voulez intervenir et poser une question ou faire une remarque, bien sûr, vous êtes les bienvenus.
Si vous pensez que c'est trop long aussi.
Oui, si vous pensez qu'il est temps de. Ode au corps tant de fois caressé. On finira là-dessus, je pense, parce que l'heure tourne et après on parlera quand même de l'Ouzbékistan et de Stig Dagerman. Ode au corps tant de fois caressé. C'est une scène immobile. On pense beaucoup au cinéma en voyant ça. D'ailleurs, la couverture est un extrait, un fragment d'image de Paris, Texas, de Wenders. Et on pense beaucoup à une scène de cinéma, de la Nouvelle Vague, ou enfin voilà, où c'est un couple vieillissant. Hein. Ils abordent la soixantaine tous les deux, si j'ai bien compris. Hein. Je sais pas s'ils ont exactement le même âge, mais voilà. Et c'est un regard masculin. L'homme regarde ce corps tant de fois caressé. Et c'est une. Oui, le terme d'ode, tiens, pourquoi est-ce que c'est une ode? Un hommage?
Oui, c'était ça. C'était vraiment un hommage. Et après, il y a la musicalité. Le titre est bien, ça allait très bien. Ouais, c'est ça.
Et donc, c'est un de ces moments dans un couple où on regarde ces. On peut regarder son propre corps, on regarde le corps du ou de la partenaire, et inévitablement les années sont passées. Le désir n'est peut-être pas passé, lui.
Oui.
Ou alors, enfin, il y a un mot qui résume tout, du moins qui le symbolise bien, et je pense qu'il est très juste pour expliquer ce qui peut arriver dans tous les couples, ou dans toutes les. C'est la désynchronisation, en fait. C'est que voilà, quand il n'y a plus de synchronisation, enfin, quand un couple est désynchronisé, non pas que les problèmes commencent, mais il y a quelque chose qui ne va plus.
Oui, c'est un livre. Je voulais dire que le désir peut durer très longtemps. J'en avais marre de ces histoires. Je suis tombé deux ou trois fois sur les couvertures du magazine qui disaient au bout de 3 ans, en gros.
Ah oui, ça c'est
plus désir.
Avec BD, ça.
Voilà. Et ce livre-là, et moi, je voulais dire que, après, alors je ne sais pas où ils en sont, à 30 ans de vie commune, il dit simplement, il regarde, alors il rentre dans la salle de bain, sa femme est nue, elle a 60 ans, donc elle a un corps qui a 60 ans, et il dit tu es la personne la plus désirable au monde, et je n'oublie personne lorsque je dis ça. Et il y a toute une réflexion sur ce désir qui tuer la personne la plus désirable au monde ne signifie pas que j'ai des œillères et que je ne désire pas d'autres femmes, mais c'est toi qui es la plus désirable au monde, et je n'oublie personne parce que je dis cela. Et voilà, c'était important pour moi, parce que moi je vis avec la même personne depuis plus de 30 ans maintenant, et c'est une histoire qui me tenait à cœur, quoi. J'en avais marre de ces histoires de désir. Je crois que c'est un désir, ça se travaille, et ça peut vivre très très longtemps. Alors évidemment, ça je le souligne aussi, le désir masculin dure parfois plus longtemps, ou en tout cas est plus vif que le désir féminin à un certain âge, ce qui explique aussi tous ces couples qu'on voit, où des hommes se réinventent une histoire avec des femmes de 30 ans plus jeunes, que je trouve des fois pitoyable, même si on peut comprendre l'attirance pour la jeunesse. J'échappe pas, mais enfin, en tout cas, je trouve que des fois c'est un peu pathétique, quoi. Voilà, j'avais envie de parler de tout ça. C'est le livre que j'ai écrit après Chronique des années d'amour et d'impertinence. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après un livre de 500 pages? Ben, c'est un livre de 40 pages, quoi. Sinon, il fallait le faire autrement. Je vois que vous avez la première version qui est bourrée de coquilles et de fautes.
Ah, c'est pour ça.
Oui,
non, il n'y en a pas.
Si, il y en a quand même. Et, enfin bref, peu importe, mais on l'a réédité avec des pages roses à Saint-Valentin.
D'accord.
Mais bon, c'est aussi un couple qui souffre de cette désorganisation. Enfin, j'essaye d'aborder tous les aspects, mais c'est pas facile. Enfin, j'ai pas envie de dire aussi, justement, ça serait pas preuve de lucidité que de dire, en fait, ça fait 30 ans qu'on vit une passion admirable et que nous nous désirons profondément et que. Non, ils sont dans une l'appréhension délicate de cette vieillesse, mais il n'y a pas le renoncement, quoi. Il n'y a pas le renoncement, voilà. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait le renoncement, je crois, dans son couple. Et alors, c'est à un moment donné, ça dérive un peu vers le roman. Au début, on peut imaginer que c'est une pièce de théâtre, on peut imaginer que c'est très personnel comme texte, et puis je joue sur le fait que. Paris, Texas, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Wim Wenders, mais il y a cette magnifique scène, enfin, que je trouve.
Dans le Pipchou.
C'est ça, où l'homme commence à raconter à la femme qu'il a aimée, et qu'il a quittée dans des circonstances tragiques des années auparavant, commence à raconter leur histoire, mais elle ne sait pas que c'est lui, parce que il y a un dispositif dans ce lieu. Les hommes parlent derrière un miroir sans teint et les femmes les entendent mais ne les voient pas. Et donc lui, il monologue devant cette femme qui est dans la salle de bain, et ça m'a rappelé cette histoire. Et j'imagine qu'ils habitent dans la maison de Paris-Texas, ils ont acheté la maison où a été tourné le film. Et elle a été une actrice hollywoodienne, mais qui n'a pas très bien réussi. Et il lui dit que de toute façon, voilà, c'est sûr qu'il a beaucoup fantasmé, il a beaucoup aimé quand elle était actrice, mais qu'il continue à l'aimer maintenant qu'elle n'est plus et qu'elle a 60 ans.
Bien. Oui, les voyages et donc.
L'Ouzbékistan.
Ben oui, quand même, c'est ça me. Donc vous en revenez depuis peu.
Enfin, oui, parce que à la Toussaint.
Ah, d'accord. Combien de temps vous êtes resté sur place?
3 semaines.
Il y a un projet de livre à la suite de ça ou...
Non. Non, non, c'est pour ça que je ne sais pas s'il faut en parler.
Non, c'est très personnel. Si c'est
bon, l'Ouzbékistan, peut-être qu'on ne signe pas forcément, mais c'est le pays où, de la ville de Samarcande, entre autres, de Boukhara, c'était lieu de croisement de cultures. C'est la route de la soie, c'est les points de contact entre les grands empires chinois, mongols et Alexandre le Grand. C'est entre l'Occident et l'Orient. Et c'est des lieux qui nous fascinent, puisque là, c'est une histoire à deux aussi. Donc voilà, mais j'ai pas de projet de livre. Peut-être qu'il y aura des images quelque part un jour.
Non, je tenais à en parler parce que je croyais qu'il y avait un projet littéraire autour. Donc passons, mais effectivement, on sera vigilant entre les lignes de discerner Samarcande. Alors, par contre, la Suède et Stig Dagerman. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer de retrouver ce podcast ou du moins cette émission sur France Culture avec ce voyage en Suède où vous allez à la rencontre de Stig Dagerman, un écrivain qui a disparu et qui a disparu même avant votre naissance, mais qui était votre ami avant même que vous ne sachiez qu'il existe. Et donc ça, par contre, ça donnera l'objet d'un livre à la rentrée, c'est toujours ça tient toujours, d'accord. Chez qui
La fosse aux ours.
La fosse aux ours. Comme temps de silence, etc.
Non, pas temps de silence.
Non, la temps de silence. Ah oui, c'est l'atelier contemporain. Pardon. Temps pour moi. Donc, pourquoi Stig Dagerman? Alors, c'est un auteur, bien humblement, que je ne connaissais pas. Qui est cet auteur rapidement et pourquoi est-ce qu'il vous parle à ce point?
D'abord, ça m'a ému. C'est un auteur qui s'est suicidé à 31 ans, qui a beaucoup écrit jusqu'à l'âge de 26 ans et après qui a été dans l'incapacité d'écrire, des ébauches, des formes courtes, qui a eu beaucoup de succès, qui a consacré beaucoup, beaucoup de sa vie à la lutte politique. Il était anarchiste. Il a écrit quotidiennement dans un journal anarchiste. Il a fait un reportage absolument bouleversant sur la souffrance des vaincus. Il y a un livre qui s'appelle « Automne allemand ». Il se rend dans les villes dévastées d'Allemagne en 1946. Lui, en 1946, il faut savoir qu'il a 23 ans. Il en ramène un objet absolument magnifique. J'ai découvert ça, moi j'avais un peu plus de 26 ans, de 30, non, j'avais pas 31 ans, j'avais justement moins que lui, mais j'approchais de cet âge où il s'est suicidé, j'étais bouleversé. Bon, c'est une figure d'ange en plus, si vous tapez son nom, vous verrez son visage. Un ange blond comme ça, un ange du Nord, hanté par le suicide, par la mort. Alors c'est très noir, Dagerman, c'est très noir. Il y a un livre, peut-être vous avez aperçu, parce que les libraires le ressortent systématiquement à Noël, c'est un tout petit livre. Et les gens offrent ce livre, mais ils offrent surtout le titre, je crois, parce que l'intérieur est là. Ça s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », qui n'est pas en plus le vrai titre. Enfin bon, la phrase existe dans le texte. Et voilà, donc moi j'ai découvert ça, j'avais, je crois, 24 ans, 25 ans. Bon, évidemment on est sensible au jeune homme qui se suicide à 31 ans. J'ai vu sur scène l'acte 3 d'une pièce qui s'appelle Condamné à mort, qui m'a beaucoup touché. C'était à une époque où Internet n'existait pas, et la pièce Le Condamné à mort était épuisée. Donc on a joué avec mon ami à faire tous les bouquinistes de France, c'était la seule chance pour trouver l'acte 1 et 2, que je sache de quoi il s'agissait. Et ça a commencé là. Et dans mon premier livre, qui est un recueil de nouvelles que j'ai publié en 99, que j'ai dû écrire en 95-96, il y a une nouvelle qui met en scène la dernière nuit de Stieg Dagerman. Dans la plupart de mes livres, je cite une fois Stieg Dagerman. Et puis un jour, je me suis dit, je vais faire plus. Je vais inévitablement faire plus. Alors, ça c'est pas très important, mais ça a joué. J'ai réalisé qu'il était né en 1923, et donc 2023, c'était le centenaire. J'ai réalisé ça en 2018-19, donc là, je me suis dit, je vais faire un livre qu'on publiera en 2023. Donc, ce livre est fini depuis un moment. J'ai demandé une bourse pour aller à Stockholm. J'ai passé un mois à Stockholm. Il se trouve que j'avais un contact avec des gens qui font un programme sur France Culture qui s'appelle L'Expérience, qui passe le dimanche. Et que, comme on s'entend bien, ils m'ont proposé de faire aussi une expérience autour de Stieg Dagerman et de mon voyage en Suède. Donc je suis parti en Suède avec un micro estampillé France Culture. Et...
J'allais vous demander s'il n'y avait quand même pas une équipe technique qui vous suivait. C'est vous qui avez joué l'ingénieur du son.
Mais j'avais. C'est vraiment une belle expérience. Bon, je pense qu'il faut faire vite maintenant, mais je ne vais pas parler trop de France Culture, mais c'est vrai que pour l'écrivain que je suis. J'ai découvert un espace de travail, un confort de travail qui est admirable. Quand vous travaillez sur un documentaire fiction comme celui-là, vous avez une personne avec vous au début, après il y a quelqu'un qui fait le mixage. Et les deux fois où je l'ai fait, j'ai rencontré ces gens-là, voilà, pour qui j'ai beaucoup d'affection, qui sont des gens qui sont là juste pour vous aider. Quoi. Ils n'imposent rien. Enfin, donc on a travaillé là-dessus, moi je suis revenu avec plein d'idées et puis la personne avec qui j'ai travaillé était là pour valider tout ce que je faisais, sauf de temps en temps me dire fais attention là, tu sais, peut-être ça va pas marcher. Et juste cette présence là et ça m'a poussé à, et c'est vrai que je revendique vous dites plutôt du bien de cette émission, ça me touche beaucoup parce que pour moi c'est un de mes meilleurs livres, je dirais, enfin, je considère que c'est quelque chose qui a l'équivalent de mes livres. Oui, je me suis donné là-dedans. Et alors, en plus, il y a beaucoup, je lis beaucoup des extraits de mon livre, donc ça s'appuie là-dessus. Mais voilà, c'était une belle histoire. Et donc, Dagerman, ben voilà, comme je le disais, je l'ai découvert en 1991 et c'est jamais sorti de ma vie. C'est quelqu'un pour qui j'ai une vraie affection. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est le plus grand écrivain de tous les temps, il est mort trop jeune. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas complètement abouties dans ses œuvres. Il y a des choses que lui-même ne voulait pas éditer, mais les éditeurs, après, s'en emparent. Donc, lui, il savait que ce n'était pas réussi. Et tout ça fait que j'ai de la tendresse et de l'amitié, je dirais, pour cet homme. Et voilà, maintenant j'ai rencontré sa fille. C'est vraiment une histoire importante de ma vie.
Avez-vous des questions? Bon, bah, pas bien. On s'arrête là?
Bon, je crois que c'est bien.
Christophe, merci beaucoup. Donc...